A vraiment interpellé, je vais la lire avec vous, pour vous dans Ésaïe 7, avant de commencer notre message, il est écrit, c'est Ésaïe 7, verset 9, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » C'est Ésaïe qui le dit à Akaz. Alors Akaz, vous connaissez peut-être un peu ce roi, il a fait le choix de faire alliance avec le roi assyrien pour être délivré du roi de Syrie et d'Israël du Nord qui venait l'attaquer, lui était roi de Juda. Et malheureusement, il n'a pas écouté le prophète. Au lieu de croire, il s'est allié à l'assyrien et vous savez ce qu'Akaz a fait ? Il a pris les idoles de la Syrie et les a même mis dans la maison de Dieu. Bon, tout est là. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Bien-aimés, faisons confiance au Seigneur quand c'est difficile. C'était difficile pour Akaz. Il avait deux rois, une coalition contre lui. Juda, Jérusalem, pouvait être serré de près. Et l'homme de Dieu dit, il faut croire pour subsister. Amen. Et je crois que dans notre vie chrétienne, c'est la même chose pour nous tous. Si nous flanchons dans la foi, nous n'irons pas loin. Mais c'est dans les moments difficiles que nous sommes appelés à honorer Dieu par la confiance que nous avons à lui manifestée. Amen. Croire quand c'est facile, quand le vent va dans nos voiles, ce n'est pas grand-chose en fait. Mais honorer le Seigneur en décidant de lui faire confiance contre toute attente, c'est ce à quoi nous sommes appelés, marcher par la foi. Et j'aimerais m'entretenir avec vous sur la nécessité d'avoir une foi personnelle. On va lire un mauvais exemple, c'est un autre roi, on va dans 2 Chroniques, chapitre 24. Il s'agit du roi Joas, 2 Chroniques, chapitre 24. Peut-être un jour nous reviendrons sur ce roi Akaz. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 15. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 15. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans, signe de bénédiction. On l'enterra dans la ville de David avec les rois. C'est exceptionnel qu'un souverain sacrificateur soit dans les sépulcres royaux, parce qu'il avait fait du bien en Israël à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors, le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Amen. Je parle de l'importance d'avoir une foi personnelle parce que ce roi, malgré les apparences, n'avait pas une foi personnelle. Quand celui qui le tenait, celui qui l'influençait certes en bien, celui qui était son appui est mort, le souverain sacrificateur, sa foi n'a pas résisté. Des chefs sont venus, se sont prosternés devant lui et il a accepté ce mauvais deal, en l'échange de leur soumission, d'accepter l'idolâtrie dans le royaume. On peut parfois être impressionné par quelqu'un et croire au Seigneur tant que cette personne est dans l'assemblée. Joas a cru avec fidélité tant que Jéhojada était en vie. Jéhojada avait sauvé la royauté en Juda, cette lignée davidique et surtout messianique. Il n'avait que 7 ans quand, grâce à Jéhojada, Joas avait pu parvenir au trône. Et certainement que cet homme de Dieu a une grande influence pour lui. Et ce n'est pas mauvais que dans notre parcours chrétien, il y ait des hommes, des femmes qui nous aient marqués dans la foi. Mais à un moment donné, il ne faut pas seulement avoir le Dieu de nos pères, il faut que Dieu soit notre Père. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des fils. Peut-être un serviteur de Dieu vous a beaucoup aidé dans votre foi, comme Joas avec Jéhojada. Et c'est vrai qu'il y a eu des hommes bénis par le Seigneur qui nous ont aidés dans l'œuvre de Dieu. Mais ça ne doit durer qu'un temps. On ne peut pas toujours rester enfant. Et à un moment donné, il faut quand même mûrir. Quelqu'un d'autre aura été peut-être très impressionné par un membre de sa famille. Il est des frères, des sœurs, quand ils parlent de leur père ou de leur mère. Ils en parlent avec effusion, ils pleurent. D'autres, un chrétien, une chrétienne d'une assemblée a marqué. Mais voilà, aujourd'hui, ils ne sont plus. Jéhojada est mort. Que vas-tu faire ? Vas-tu flancher dans la foi ? As-tu flanché dans la foi ? Qu'est-ce qui faisait que tu as marché avec le Seigneur ? Parfois, on est porté par l'Église et on ne se rend pas toujours compte que l'on fait même parfois presque partie un petit peu d'une religion, la bonne, la religion évangélique. Mais ce n'est pas l'Église qui doit nous porter. C'est une foi vivante et personnelle en Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On peut être maintenu aussi dans l'Église par une activité. Il y a des personnes avec lesquelles, quand on leur parle de leur vécu chrétien, ils n'ont à la bouche que ce qu'ils ont fait dans l'Église, dans le cadre de certaines activités. Ce sont des gens qui se maintiennent par l'activité, par quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils font, quelque chose qu'ils apprécient, qu'ils aiment ou par lesquels ils se sentent reconnus. Mais ce n'est pas non plus la raison pour laquelle nous pourrions être sauvés. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire dans l'Église qui devrait être le moyen de nous maintenir dans la foi. Bien au contraire. Alors ce message, c'est peut-être pour une seule personne, une personne qui a flanché quand il n'y avait plus ce soutien. Il est temps pour toi ce matin de revenir au Seigneur et de croire de tout ton cœur, personnellement. Alors, il a été sous une bonne influence. Après, il a été sous une mauvaise influence. Quand nous ne sommes que influencés, en fait, ça peut aller dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Il y avait une grosse pression quand même. Tous les chefs qui viennent et se prosternent devant lui. Souvent, les gens essayent de nous influencer. Et le chrétien aura affaire à toutes sortes de sollicitations dans son entourage. Et ce ne sera pas des moindres personnes. J'ai connu quelqu'un qui est venu à l'église pendant quelques mois, mais il avait peur de dire à ses parents qu'il venait à l'assemblée. Ça n'a pas tenu. Le temps a joué en sa défaveur. N'ayons pas peur des hommes. Ne craignons que le Seigneur. Pour avoir une foi personnelle, Il ne faut certainement pas avoir une foi lâche, cachée, mais dire haut et fort que Jésus-Christ est notre Seigneur. Si vous venez dans ce lieu, c'est une très bonne chose, mais si vous venez en cachette, alors il y a une faiblesse, une fragilité. Et il faut, pour vous affermir dans cette foi personnelle, sortir du bois, élever la bannière et confesser Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui ne confessera pas Jésus devant les hommes ne sera pas confessé par le Seigneur non plus devant son Père. Une foi personnelle. En tout cas, ensuite, au verset 24, il est dit que l'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, et les Syriens firent justice de Joas. Au fond, Joas a payé cher cette foi qui manquait de conviction. Ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que si dans notre foi, nous prenons de mauvaises décisions et si nous lâchons, c'est chacun d'entre nous qui devra comparaître devant Dieu. Les chefs ont influencé Joas, mais c'est Joas qui a été puni. Et vous savez, quand on sera devant le Seigneur, il n'y aura plus personne pour nous aider. Mais chacun aura à rendre un compte pour soi-même. Il nous faut une foi personnelle parce que c'est chacun d'entre nous personnellement qui devront rendre compte de ce qu'aura été notre vie et de ce qu'auront été nos choix. Il est important ce matin que tu te décides pour le Seigneur Jésus-Christ parce qu'un jour tu auras à comparaître devant lui et c'est toi qui seras jugé. Ce ne sera pas les autres qui t'auront ou qui t'auraient influencé. Alors comment avoir une foi personnelle? Parce qu'il ne s'agit pas ce matin simplement de dire qu'il est important d'avoir une foi personnelle, de voir que Joas n'a pas eu cette foi personnelle et qu'il a été complètement déstabilisé quand Jehojada est mort parce qu'il s'appuyait trop sur lui. Et peut-être quelqu'un ce matin se réalise que sa foi a été trop appuyée sur d'autres et pas sur le Seigneur. Alors comment avoir une foi personnelle? Bien tout simplement, d'abord, il vous faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? La vie chrétienne, avant tout, ce n'est pas un code de moralité. C'est important. On n'est pas chrétien parce qu'on suit la Bible dans le bien qu'elle nous préconise de pratiquer. Être chrétien, ce n'est pas d'abord faire le bien. Être chrétien, c'est d'abord connaître Dieu, aimer Dieu, avoir une relation avec lui. Et tout le bien que nous pouvons ensuite pratiquer découle de cette relation. Si votre foi a reposé essentiellement sur une pratique morale du bien enseigné dans la Bible, sans qu'il y ait d'abord une relation personnelle avec le Seigneur, on peut dire qu'il y a là une grosse faille dans votre foi. Pour que notre foi soit personnelle, il faut que nous ayons dans cette foi une relation avec le Seigneur. Le plus important dans une maison, dans une famille, ce n'est pas forcément de remplir toutes nos obligations. Mais le plus important dans une maison, c'est de s'aimer. On peut être des parents qui assumons toutes nos responsabilités, au niveau de l'argent, de la scolarité, un tas de choses, mais oublier de vivre ensemble. Et on a de relations avec ses enfants que des relations parfois même conflictuelles, où il faut que les enfants soient bien éduqués, alors on leur apprend le bien, mais on oublie de profiter des moments de la vie avec eux. de vivre avec eux, d'avoir une relation. Dans la vie chrétienne, le plus important, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Une relation régulière, quotidienne, dans nos pensées. Il y a un jeune homme qui ne connaissait pas du tout cette relation et qui deviendra pourtant l'un des principaux prophètes de la Bible, c'est Samuel. La première fois que Dieu lui a parlé, il n'a rien compris. Il s'est levé, il a couru vers Élie. Il a dit « Parle ! Me voici !» Et Élie, sur le coup, qui était un sacrificateur expérimenté, n'a pas compris. Mais au bout de la troisième fois, il a compris. Il a compris que c'était Dieu qui parlait à Samuel. Il lui a dit, quand tu entendras encore cela, tu répondras, parle, car ton serviteur écoute. Et ce jeune homme, dans cette nuit, la troisième fois, et la première fois pour lui, il a eu une relation avec Dieu. Il a entendu Dieu et il lui a répondu. Quelle belle expérience. La foi personnelle, c'est ça. C'est avoir une relation avec Dieu. Vous venez à l'assemblée. C'est une très bonne chose. Mais si vous n'avez pas cette relation personnelle avec le Seigneur, vous ne vivez pas. La vie de l'Esprit nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est justement pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Christ est mort à la croix, pas seulement pour laver notre vie du mal, mais le but, quand il nous lave par son sang, le but, c'est pas qu'on soit de bonnes personnes pour dire d'être des bonnes personnes, le but, c'est que ainsi nous puissions avoir une relation avec Dieu. Il nous réconcilie avec son Père. Le but de la mort de Jésus-Christ sur la croix, ce n'est pas de nous laver pour nous laver, mais surtout de nous amener à Dieu. Amen. Surtout. Voilà pourquoi nous pouvons toujours avoir part à l'aspersion du sang de Jésus, de telle sorte que même quand on est chrétien, s'il vous arrive encore de chuter, vous avez toujours le bénéfice du sang pour toujours être en relation avec Dieu. Amen. Toujours rester en relation avec Dieu. Alors, comment avoir une foi personnelle en ayant cette relation? Ça veut donc dire, à la maison, eh bien, parfois prendre du temps spécifique pour prier, pour lire sa parole, mais au-delà, même dans toute autre situation de la vie, au travail, en voiture, cultiver cette relation. Pensez au Seigneur. La Bible dit, tu aimeras ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Amen. Et avoir une relation avec le Seigneur, c'est aussi dans le domaine de nos pensées. Nos pensées sont prises par énormément de choses. Et parfois, il n'y a plus assez de place pour le Seigneur. Une foi personnelle, c'est une foi dans laquelle nos pensées seront aussi orientées vers lui. Et certainement que les temps que nous passons plus précisément à prier, va nous aider, après, dans tout le temps de la journée, d'être en relation avec lui. Je crois aussi que l'on peut avoir une foi personnelle grâce à des périodes de crise. Vous voulez bien lire avec moi dans Job, chapitre 42. Versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Alors là, il se cite lui-même. Hein. C'est une parole qu'il a dite à Dieu. « Oui, j'ai parlé, sans les comprendre. » De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Là, Job rappelle une parole que Dieu lui a dite. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Job a dû traverser une grande crise dans sa vie pour en arriver là. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce croyant excellent, le plus éminent des fils de l'Orient, celui qui avait une foi exemplaire, qui était moteur dans tout son entourage, un modèle, il dit quand même, après cette crise, j'avais seulement entendu parler de toi. Mon oreille, j'avais seulement entendu, comme on peut entendre une théorie. Mais après ce que je viens de vivre, c'est plus une théorie. Je te vois. Je te connais. Différemment. Gloire à Dieu. Il est obligatoire pour l'approfondissement de notre foi de passer par des moments très difficiles. C'est dommage, ce n'est pas volontiers que l'Éternel afflige les fils des hommes. C'est dommage qu'il en soit ainsi. Mais si ça a été vrai pour le plus éminent des fils de l'Orient, soyons-en sûrs, ce sera vrai pour nous. Ça a même été vrai pour le Fils de Dieu qui a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Job a comme rencontré Dieu dans la tempête, puisque à propos de son épreuve, l'Écriture dit dans ce même livre que c'est au milieu de la tempête que Dieu lui a répondu. Son épreuve, donc, est imagée sous les traits d'une tempête. Il nous faut des tempêtes pour grandir dans la foi. Il paraît que plus la tempête est forte, plus les arbres assez solides s'enracinent. Et nous croyons que Dieu n'envoie jamais une tempête à un arbre qui n'est pas assez fort pour y résister. Alléluia. Et que toute tempête qui vient dans notre vie est faite pour nous fortifier. Et pourtant, il a fallu que Dieu lui parle deux fois. C'est à la deuxième fois que Job répond et qui dit « Je reconnais que tu peux tout, que j'ai parlé à tort et à travers, que j'ai dit un peu n'importe quoi, que c'est vrai que quand tu me demandes de t'instruire, mais c'est de la folie, je me condamne, je me repens dans l'humiliation. » Alors quelqu'un pourrait dire, c'est curieux quand même, parce que il a prié pour ses amis. Dieu dira qu'il n'a jamais rien dit d'injuste dans tout ce qu'il a pu partager. Et pourtant, Job dit, moi je me condamne, je me repens. Alors c'est vrai que Job n'a pas été éprouvé parce qu'il était plus mauvais qu'un autre, loin s'en faut. Mais c'est vrai quand même que le meilleur d'entre nous, si ça existe, reste quand même pécheur. Et que dans toutes les tempêtes et toutes les difficultés ressortent de nos cœurs des drôles de choses. Des drôles de réactions, des drôles de pensées. Et Dieu nous montre ce dont nous ne sommes pas conscients. Il nous révèle. Il nous révèle par sa parole parfois. Et bien d'autres moments, il nous révèle dans des temps de crise. Pour avoir une foi personnelle, il faut passer par des crises. Dieu trie son peuple par ces moments difficiles sur la terre. La Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Nous faisons l'inverse. J'ai lu cela cette semaine dans un livre qui parle des paraboles de Jésus. Et l'auteur disait, Jésus avait parfois un langage énigmatique qui a chopé certaines personnes. Et il n'essayait pas toujours de tout faciliter. Là où nous, parfois, nous voulons faciliter à tout prix l'évangile pour que le plus grand nombre soit sauvé. C'est vrai que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles et que Jésus qui est venu sur la croix, bien vraiment, ça nous a facilité le chemin du salut. Amen. Mais pour autant, c'est quand même un chemin étroit et resserré, difficile. Et il doit y avoir des épreuves, parce que chaque chrétien doit faire ses preuves au long de sa vie, avant d'entrer dans l'héritage éternel. Alléluia. Et sur ce parcours où nous faisons nos preuves, il y a un tri qui s'opère, que Dieu seul fait, que nous ne sommes pas habilités à faire. que Dieu seul fait. Et ceux qui résisteront seront ceux qui auront une foi personnelle. Une foi personnelle. Parce que tous nous serons testés et éprouvés. Et dans cette tempête, Job a vu Dieu, a été plus loin avec le Seigneur. Mais parce qu'il a accepté à un moment donné aussi de s'humilier. Pour avoir une foi personnelle plus approfondie, il me semble qu'il ne faut pas seulement subir les événements, mais les vivre avec humilité. Et parfois, ne pas hésiter, nous en avons besoin de reconnaître nos fautes, nos péchés, et de demander au Seigneur pardon pour que nous puissions aller un peu plus loin avec lui. Amen. Vous pouvez me dire, oui, mais d'autres font des choses plus graves, d'autres. Job réfléchit à personne, il réfléchit pas à ses amis qui ont été des amis fâcheux. Il est devant Dieu, Dieu lui parle. Et j'ai lu cela aussi récemment, vous savez, quand on est en présence de Dieu et de sa sainteté, il n'y a plus de grands pécheurs et de petits pécheurs, je pense. Quand Ésaïe voit le Seigneur et qu'il entend « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel », il dit « Malheur à moi, malheur à moi ». Pourtant, il est au milieu d'un peuple pécheur. Mais vous savez, si nous étions plus conscients de la sainteté de Dieu, personne d'entre nous ne regarderait de côté. Mais tous, nous saurions dire « Seigneur, fais-moi grâce en Jésus ton Fils ». Amen. C'est ce que Job fait. Alors, pour avoir aussi des convictions personnelles, je crois, on va lire dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, eh bien, il faut l'Écriture. Ça, c'est indéniable. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute Écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Pour convaincre. C'est un mot qui veut dire preuve et conviction aussi. Pour convaincre. Preuve à l'appui, c'est la Bible. Amen. Pour convaincre. Pour avoir une foi personnelle, il faut avoir des convictions. Nos convictions, nous les tiendrons de qui? De où? De l'Écriture. Si vous avez des convictions dans votre foi seulement sur ce qui est prêché dans l'Église, ce qui est pratiqué dans l'Église, ou votre acquis, ce que vous avez appris depuis des années, des décennies peut-être, mais que aujourd'hui il n'y a plus ce travail personnel de conviction par l'Écriture, alors votre foi va s'affaiblir. Elle ne sera pas personnelle. Nous le dirons tout à l'heure, de toutes les façons, il est bien sûr indispensable de vivre dans l'Assemblée. Mais, si vous voulez avoir une foi avec des convictions, vous ne pourrez les trouver que dans l'Écriture. Toute Écriture est utile, inspirée pour enseigner, convaincre. Nos preuves, nous ne les cherchons pas dans ce qui se pratique dans les églises. Nos preuves, nous les cherchons dans la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 14, verset 23, il est même recommandé de permettre aux gens d'avoir le temps d'être convaincus. Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction, c'est le mot foi, hein, par conviction. D'ailleurs, second 21 traduit, me semble-t-il, par conviction de foi. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Hein, produit d'une foi, de la foi, est péché. Alors le contexte, rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Il y avait dans la première église des sujets de division importantes. Nous, on les lit rapidement parce que c'est plus du tout notre culture, mais à l'époque, c'était important, très important. les viandes sacrifiées aux idoles étaient monnaie courante, même quand on allait au marché, etc. Et puis il y avait aussi toute une proportion, les églises étaient composées de juifs et de païens, puis les juifs avaient encore aussi des restrictions dans leur esprit sur certaines viandes qu'il ne fallait pas manger. Et tout cela, ça pouvait être des sujets de conflit, d'affrontement. Et l'apôtre Paul, dans tout cela, dit écoutez, il faut que chacun soit convaincu. Il faut que chacun vive ces choses dans la foi. Et une foi qui leur est personnelle. Parce que celui qui va manger, mais avec des doutes, il va pécher. Donc l'apôtre Paul lui-même favorisait dans les assemblées, non pas à une uniformisation d'opinion, mais à ce que chacun, dans sa foi, comprenne ce qu'il avait à faire. Amen. Et ça, je crois que c'est important. Quand on favorise la foi personnelle, je pense aussi que l'on peut favoriser le support mutuel, l'amour fraternel. Je crois qu'il est bon dans l'assemblée, parfois, d'attendre que les uns et les autres aient une pleine conviction, sans que les uns et les autres soient obligés d'agir comme quelques-uns le voudraient, impérativement. Il y avait des gens qui disaient... Et d'ailleurs, Paul le dira, moi je sais qu'une viande sacrifiée aux idoles, les idoles n'existent pas, en fait ça n'a pas d'importance. Moi je le sais, mais tout le monde n'a pas cette conscience-là. Alors si quelqu'un n'en est pas là, il ne faut pas lui dire, bon enfin, t'en éclates, t'as le droit de manger, mange. Non, si pour lui, il a des doutes, vous allez l'amener à pécher en faisant quelque chose contre sa foi personnelle. Et je crois qu'il faut que nous, les uns et les autres, nous acceptions que nous n'ayons pas tous les mêmes convictions sur toute chose et de favoriser l'accueil, la compréhension mutuelle. Amen. Voilà pour ce qui est d'une foi personnelle. Joas n'avait pas cette foi personnelle quand Jéhojada est mort. Il a flanché. Et je crois que quelqu'un ce matin est venu et va se reconnaître en comprenant que sa foi a flanché parce qu'elle reposait trop sur quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur, s'il vous parle, c'est parce qu'il va faire, il veut être votre sauveur, à vous. Alléluia. Et ensuite, nous avons vu ensemble qu'il est important d'avoir une foi personnelle au cœur de laquelle c'est notre relation avec Dieu qui compte, plus que la pratique d'un code moral, même si celui-ci est chrétien. Je voudrais terminer avec un second point, c'est qu'il faut avoir une foi personnelle, certes, mais sans être indépendant et solitaire. On lit Proverbe 18, s'il vous plaît, Proverbe 18. Proverbe 18, verset 1er. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Amen. Amen. Alors, ça sera la deuxième partie de cette méditation va être contradictoire avec la première. Je viens d'insister sur la foi personnelle en Jésus-Christ. J'insisterai maintenant sur la nécessité de n'être ni indépendant, ni solitaire. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Vous savez qu'en Israël, il y avait plein de lieux, de hauts lieux, où chacun servait Dieu, rendait un culte à Dieu, comme ça lui plaisait. Et que Dieu pourtant ne voulait qu'un culte central à Jérusalem, pour que, justement, la foi ne dévie pas. J'ai d'autres traductions que je vous lis de ce Proverbe 18, verset 1er. Qui se tient à l'écart suit son caprice. C'est intéressant. Qui se tient à l'écart suit son caprice. À tout ce qui réussit, il montre les dents. Une autre traduction, celui qui se tient à l'écart ne cherche qu'à contenter sa passion. Il s'irrite contre tout sage conseil. Celui qui se tient à l'écart cherche à contenter sa passion. Vous savez, il faut faire la différence entre conviction, foi, foi personnelle et passion. La foi personnelle, elle est justement personnelle, elle ne doit pas s'imposer aux autres. Ce n'est pas une passion. Celui qui se tient à l'écart cherche à faire triompher sa passion. Quand on n'est pas d'accord avec soi, alors on se met de côté et on voudrait faire triompher sa passion. Quand on se met à l'écart, c'est qu'on n'est pas capable de confronter des opinions ou des convictions différentes. On est passionné, excessif, donc à l'écart. On n'est pas capable de vivre ensemble parce qu'on n'est pas à la sagesse de la modération. Celui qui se tient à l'écart ne cherche qu'à contenter sa passion. Il s'irrite contre tout sage conseil. Il ne veut rien entendre. Quelqu'un qui est passionné ne veut rien entendre. Il veut beaucoup parler, mais très peu écouter. Une autre traduction dit « L'homme particulier cherche ce qui lui fait plaisir et se mêle de savoir comment tout doit aller. » J'ai trouvé ça pas mal. « Et se mêle de savoir comment tout doit aller. » Eh oui, celui qui s'isole suit son inclination, dit une autre version. Il s'obstine contre toute raison. Celui qui s'isole suit son inclination. Ça, c'est fondamental. Nous ne nous en rendons pas compte. Mais si on est indépendant et solitaire, on sera déviant. On va suivre notre inclination, nos tendances, nos inclinaisons, nos préférences, nos erreurs qui, pour le moment, ne sont que faibles, embryonnaires, petites, mais qui, si nous ne vivons pas ensemble, vont se développer et finir par nous emmener loin de la vérité. On ne dévie pas du jour au lendemain. On ne s'éloigne pas du jour au lendemain. Mais il faut d'abord s'isoler et donner de l'ampleur à notre passion, à notre inclination. Alors, je reconnais, ce n'est pas forcément évident, il faut avoir une foi personnelle, avec une relation personnelle avec Dieu, des convictions de la parole, mais sans devenir orgueilleux, supérieur, avoir toujours raison, penser que la vérité, c'est nous qui l'avons, c'est soi-même qui l'a, et en dehors de lui, ça n'existe pas trop, et de devenir passionné. C'est pour cela que je dis que mon deuxième point est contradictoire avec le premier. Mais en réalité, beaucoup de choses se contredisent dans la Bible. Et justement pour nous apporter un équilibre. Et des choses qu'on ne peut pas comprendre. Dieu est tout-puissant, souverain, il fait tout ce qu'il veut. C'est une doctrine. Et notre doctrine, l'homme est entièrement libre et responsable de ses choix. Ce sont deux vérités irréconciliables. Il ne faut pas choisir l'une et l'autre, il faut croire les deux. Depuis 2000 ans, les théologiens s'écharpent sur la prédestination. Parce que justement, la prédestination est le rendez-vous de ces deux doctrines, de la souveraineté de Dieu et de la liberté de l'homme. Nous ne cherchons pas à comprendre Dieu, sinon Dieu ne serait plus Dieu. Nous voulons obéir à sa parole et croire tout ce qu'il nous dit pour être équilibré. Donc nous croyons à la nécessité d'une foi personnelle et de ne pas trop reposer sur quelqu'un ou une institution, mais nous croyons aussi qu'il est fondamental pour nous de vivre dans l'Église. Et si je vous ai appelé tout à l'heure à vivre d'abord dans votre relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, je voudrais vous dire que l'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer l'Église, qu'on ne peut pas croire en Jésus-Christ et vivre près de lui sans vivre dans son assemblée. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Jésus n'était pas un solitaire. On le lit dans Marc chapitre 3, verset 14, s'il vous plaît. Marc chapitre 3, verset 14. Marc chapitre 3, verset 14. Et nous sommes aujourd'hui dans ce danger de croire que nous n'avons pas besoin des autres. Certains pensent qu'avec Internet, l'Église peut être à sa disposition dans sa maison. Mais c'est une forme aussi d'indépendance et d'esprit solitaire. Marc 3, 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Jésus n'était pas un solitaire. C'est pas facile de vivre en communauté. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans à l'école biblique, on était les uns sur les autres. Je peux vous dire que c'est pas facile. Parfois, des étudiants en théologie, futurs pasteurs, qui s'empoignent. Vivre tout le temps les uns sur les autres, c'est loin d'être facile. Déjà, un couple, c'est pas toujours évident. Mais Jésus n'était pas un solitaire. S'il en avait un qui n'aurait pas eu besoin de vivre avec les autres, c'était lui. Mais il est venu au milieu de nous. Il a vécu avec nous. Jésus n'était pas un solitaire. Il s'est entouré d'une équipe. Il a vécu parmi les frères et même les femmes qui le servaient. La première église, l'équipe type, eh bien c'est écrit que tous ensemble, ils priaient. Alléluia. L'apôtre Paul aux Éphésiens nous dit que nous avons été ressuscités ensemble. Dans 1 Thessaloniciens, Paul dit que nous allons être enlevés ensemble avec le Seigneur dans les airs. C'est ensemble. Amen. C'est ensemble que nous devons nous réunir et c'est ensemble que nous serons enlevés. Et je crois, au risque de vous choquer, alors il peut y avoir des exceptions, comprenez-moi bien, mais je donne la règle générale. Je crois que ceux qui ne s'assemblent pas dans l'Église ne seront pas enlevés ensemble non plus. Si l'Écriture dit que nous sommes ensemble dans la mort et la résurrection, alors nous sommes aussi ensemble dans l'enlèvement. Et si nous ne sommes pas ensemble dans la mort et la résurrection, nous ne serons pas ensemble dans l'enlèvement. Notre foi est personnelle, mais elle n'est ni indépendante, ni solitaire. Les premiers chrétiens avaient énormément besoin de se réunir. Ils se réunissaient tous les jours. Amen. Avez-vous besoin de venir à l'Église, frères et sœurs bien-aimés? Ressentez-vous dans votre foi ce besoin de vous retrouver les uns avec les autres? Si ce besoin diminue, alors ce message est aussi pour vous. Faites attention à ne pas devenir indépendant ou solitaire. Parce que vous savez, après la crise de Job, ce que Dieu lui a demandé, c'est d'aller prier pour ses amis. Alléluia. Ses amis qui n'ont pas été très amicaux. Parce que parfois, en passant des tempêtes, vous savez ce qui peut arriver? C'est qu'on devient méfiant. Et qu'on ne se rende pas compte, mais le diable va nous pousser dans cette méfiance pour que ça nous amène à de l'indépendance et de la solitude. Et là, nous tombons dans un autre piège. La vie chrétienne est une vie de funambule, hein, parfois. On marche sur une corde et il faut faire toujours attention, ni trop à gauche, ni trop à droite. Ni trop à gauche, une foi qui ne serait pas assez personnelle, ni trop à droite, une foi trop personnelle qu'elle en deviendrait indépendante et solitaire. Je crois en ceci, bien-aimés. Pourquoi l'Église aussi? Parce que nous avons à apprendre des autres. Amen. Est-ce que vous savez tout? Est-ce que nous savons tout? N'avons-nous pas encore à apprendre des autres? Amen. Il y a un proverbe qui dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Un proverbe de l'Écriture. « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Pourquoi l'Église? Parce qu'on va, s'aiguiser, on va s'améliorer, s'affiner. On va progresser ensemble. Des études ont été faites que quand des bébés sont un peu isolés, ils n'ont pas la même croissance intellectuelle que des enfants qui vivent avec une vie sociale plus enrichie. C'est un fait. L'Église est nécessaire parce que nous avons à apprendre de tout le monde. Amen. De tout le monde. Mais si vous êtes dans une foi trop personnelle et indépendante, vous n'apprendrez plus de grand monde. Peut-être seulement de ceux que vous estimez être bons. Parce que après, il y aura un tri. Il y aura les bons et les mauvais. Mais en fait, il n'y a pas les bons et les mauvais. Il y a l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'Église pour apprendre des autres. Lorsque j'allais à Nice, parce que ma belle-mère était concierge dans cette ville, à la plage, j'étais toujours étonné des galets. Ils étaient lisses. Lisses. Bon, j'en avais déjà vu à Dieppe, en Normandie aussi. Et c'est à force que les cailloux s'entrechoquent. Ils se polissent. Et parfois, même avec de belles formes. Il faut vivre ensemble. Il faut s'entrechoquer pour devenir plus poli. Alors, la question se pose aussi de savoir écouter. Pour apprendre des autres, il faut savoir écouter. Et ça, c'est dur. C'est la sagesse de Dieu d'écouter. Ce n'est pas la sagesse des hommes, c'est la sagesse de Dieu. Écoutez. Écoutez l'autre. Ne trouvez-vous pas que nous avons beaucoup de choses à dire, à expliquer, à critiquer, à rectifier, alors que Dieu nous demande bien plus souvent d'écouter, de recevoir. Il faut un cœur ouvert. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite, vous qui peut-être avez flanché dans la foi, d'avoir compris que c'est parce que vous ne vous appuyez pas suffisamment sur le Seigneur. Et je vous souhaite d'apprendre à vous appuyer et à vous confier avant tout sur le Seigneur et à vivre dans notre assemblée avec toute la richesse que Jésus-Christ pourra vous accorder dans son corps. Amen. Une vie personnelle, une foi personnelle et dépendante. C'est le titre de mon message.